Bienvenue à votre émission Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, c'est le 3 mai. Vous le savez peut-être déjà, le monde célèbre la journée de la liberté de la presse. Une définition toute simple de la liberté de la presse, c'est le droit pour les journalistes d'informer en toute liberté et aussi pour la plupart des personnes qui oublient souvent que c'est aussi le droit pour le public de recevoir une information diversifiée et plurielle. La liberté de la presse concerne les médias mais aussi le public. C'est une affaire de tout le monde. Votre émission 100% interactive en parle aujourd'hui. La question, comment appréciez-vous la liberté de la presse en RDC? Nous avons invité pour vous le professeur Bernard Moussoko Abombi, il est secrétaire exécutif de l'OMEC, l'Observatoire des médias congolais, mais il est aussi professeur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Kiroya Meji et Ben Kabamba sont à la réalisation de cette émission. Guimal Zangou est à la mise en œuvre. Soyez tous les bienvenus.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à ph@radiocatu.net.
Aujourd'hui, nous parlons de la liberté de la presse. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Le professeur est déjà en ligne, Monsieur Bernard Moussoko Abombi, comme je l'ai souligné dans notre introduction. Vous êtes secrétaire exécutif de l'OMEC, l'Observatoire des médias congolais, mais aussi vous êtes professeur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. En fait, aujourd'hui, la journée est célébrée cette année sous le thème « La liberté d'information, le droit de savoir ». C'est aujourd'hui une occasion de stimuler un débat sur les problèmes qui touchent la liberté de la presse et l'éthique professionnelle, aussi rappeler l'importance du droit de savoir en tant que clé d'autres droits fondamentaux et un gage de plus de transparence, de justice et de développement. Vous évoluez dans ce milieu des médias, vous connaissez bien comment ça se passe ici en RDC. Dites-nous, professeur, comment, à votre niveau, selon vous, comment appréciez-vous la liberté de la presse en RDC?
Écoutez, c'est un problème capital et qui me paraît très important, surtout en ce jour où l'humanité est en train de célébrer la journée justement dédiée à la liberté de la presse. Mm-hmm. Quand on observe les choses dans notre pays, on constate qu'il y a beaucoup de choses, que la liberté de la presse est observée, évolue en dents de scie. Il y a des discours qui nous promettent la liberté pour les journalistes de rechercher l'information, mais dans la pratique, on constate tout de même un certain nombre d'obstacles et d'écueils. Je n'en veux pour preuve que l'existence dans des prisons de quelques journalistes. Or, vous savez, moi, c'est vraiment mon credo. J'ai toujours dit que la place du journaliste n'est pas dans une prison, mais c'est plutôt d'être à l'extérieur pour rechercher l'information. Comme vous l'avez dit, une information honnête et plurielle qui doit permettre à la population de se faire une idée sur la marche des affaires du pays.
Si on devait faire une analyse dans le temps, depuis 1960 à ce jour, est-ce qu'il y a vraiment, vous constatez qu'il y a une évolution concernant la liberté de la presse en RDC?
L'évolution, c'est vrai, il y a évolution, mais cette évolution, comme je venais de le dire, elle s'est faite en dents de scie. Il y a quand on se rappelle 1960, il y a un certain nombre de journaux qui ont été publiés. C'est vrai que certains des auteurs avaient connu des privations de liberté, mais à cette époque, il me semble, je prends le cas d'un journal comme La Présence Congolaise, je dis qu'il y avait un peu beaucoup plus de liberté qu'actuellement. Il faut bien dire que à l'époque, il n'y avait peut-être pas un certain nombre de pressions telles que nous le connaissons, notamment les pressions politiques et économiques, surtout économiques, qui faisaient que bon, les journalistes ne pouvaient pas songer à autre chose qu'à faire son travail, correctement. Mais il y avait quand même la liberté par rapport à l'époque actuelle.
On peut dire que cette évolution, comme vous l'avez dit, c'est en dents de scie, mais beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué dans le bon côté et dans le mauvais côté. Donc nous allons prendre quelques auditeurs qui sont déjà en ligne. Il y a Petro qui est à Lumbashi et José à Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Pedro.
Bonjour madame.
Pedro, on vous écoute. Comment appréciez-vous la liberté de la presse en RDC?
Oui, d'abord je souhaite une bonne fête à tous les professionnels des médias. La liberté de la presse, bien entendu, a aussi ses limites. Le journaliste ne peut pas se permettre d'aller au-delà de ses limites. Il est vraiment libre d'aller chercher de l'information à la source et de venir la donner à la population qui en a besoin. Et la vraie information. Il ne faut pas que cette information soit distordue. Il faut qu'elle soit vraiment vraie, telle qu'il l'a tirée à la source pour la communiquer à la population. Alors, pour le faire, il faut suivre ce qu'on appelle la déontologie journalistique. De la profession. On ne peut pas non plus aller au-delà de cette déontologie, faire autre chose qui n'atteindra pas avec son métier. Ça, le problème. Ça doit vraiment régir tout professionnel de médias.
Mais vous êtes à Lubumbashi.
Je suis à Lubumbashi.
Comment est-ce que vous appréciez, comment est-ce que la presse, la liberté de la presse est vécue là-bas à Lubumbashi?
Oui, la presse, bien entendu, ici, je trouve que d'abord, les journalistes ont très peur. Ils ne savent pas comment dénoncer le mal. Ils ne savent pas donner la vraie information dont nous avons besoin. On se réfugie dans des éloges, on fait beaucoup d'éloges aux personnes. On se réfugie aussi dans des journaux de proximité. Alors, la vraie information dont la population a besoin, c'est vraiment rare de la retrouver. En tout cas, nous en souffrons. Nous n'en avons presque pas. Tout ce que on a à faire ici à l'Ubumbashi, c'est le journal de proximité, bien des éloges, qu'on n'est pas en train de faire des personnes déportées dans la société.
Mais Pedro, une question, vous pensez, quelle est la vraie information selon vous? Qu'est-ce qui vous manque? Quel genre d'information vous recherchez que vous n'arrivez pas à recevoir?
Nous avons besoin de l'information telle qu'elle est. Donc, qu'il est donné, c'est-à-dire une information. Un événement qui se passe, par exemple, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, une information dont nous avons besoin, là, c'est ce qui se passe effectivement, donc naturellement, pas distordre les propos d'une personne, ou bien distordre ce qui est dit en réalité, non. Nous dire ce qui s'est passé réellement, c'est ce que nous cherchons. Alors, c'est ce que nous voyons, nous déplorons, que il y a des choses qui se passent, par exemple, à la commune de la Kenya, tout le monde l'a vécu, mais quand ça passe sur les chaînes, on trouve que c'est autre chose. Alors ça inquiète, ça nous inquiète, on ne sait pas vraiment, on n'est pas satisfait vraiment de cette forme.
Merci beaucoup Pedro, vous nous appelez à partir de Lubumbashi, vous avez relevé la question qui concerne l'éthique et la déontologie du journalisme, et aussi concernant les limites, vous pensez que les journalistes ont peur, qu'ils ne donnent pas fidèlement les informations. Merci beaucoup Pedro pour votre participation à cette émission. Bonjour José.
Bonjour.
Oui, de Kinshasa, dites-nous, comment appréciez-vous la liberté de la presse en RDC?
Personnellement, d'abord, je voulais féliciter Pedro qui venait de me précéder parce que tout ce qu'il a dit est vrai. Parce que dans notre pays, si on voit bien l'information, ce que nous avons besoin, c'est pas ce que nous recevons. Parce que de la manière que les événements se passent par-ci par-là, au lieu que nous puissions les avoir de la manière que les événements se sont passés, malheureusement, on parvient à nous faire voir des choses qui sont les contraires parfois, si pas dans la totalité. Et puis, je voulais encore évoquer notre problème, c'est celui de la peur que les journalistes ont. On a constaté il y a au moins 2, 3, 4, 5 ans, plusieurs journalistes sont en train de mourir par-ci par-là. Nous avons connu les cas de journalistes qui sont morts au Sud-Kivu, morts toujours par-ci par-là.
Oui, il y a même nos confrères, deux de nos confrères ont été assassinés au Sud-Kivu. Il y a Serge Maéché et Didas Nabuzimbo qui ont été assassinés.
Oui, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Alors, par rapport à cela, beaucoup de journalistes, après avoir eu l'information, ils ont peur de pouvoir dénoncer le mal qui est en train de se faire par-ci par-là, parce que parfois demain, ça sera son tour qui puisse être tué. Et pas tout simplement ça aussi, on a constaté aussi, quelque part, que certains journalistes sont au service des individus. Vous voulez que les journalistes puissent être au service de la nation, mais ils sont au service de l'individu. Et ce qui fait que si cet individu a fait quelque chose qui n'est pas dans les normes, au lieu de pouvoir les dénoncer, le journaliste va prendre un parti pris pour essayer un peu de maquiller la chose et qu'on ne puisse pas avoir l'information de la manière que cela doit être.
Donc vous regrettez cela. Mais dites-moi un peu, quelles sont les propositions, comment vous qui voyez ce qui se passe face à la peur, qui devrait faire un journaliste? Parce qu'il y a des réalités qui sont sur terrain.
Oui, évidemment, il faut que le journaliste puisse se mettre autour d'une table, et d'abord eux, qui puissent au moins faire une table ronde et puis adopter une ligne de conduite qui peuvent aussi, je ne dis pas imposer à l'État, mais pouvoir faire voir à l'État de la manière qu'il doit faire le travail. Et je pense que l'État pourra leur donner aussi l'occasion de pouvoir aller pas au-delà, et pas aller jusqu'au libertinage, mais puisse aller dire au moins presque la réalité de ce qui se passe.
Là, José, on a un problème de réseau, on a été coupé de. Merci quand même, José, pour votre intervention. Vous êtes ici à Kinshasa, vous avez fait votre lecture des faits, ce qui concerne la liberté d'expression. Bonjour, Déo Bachi.
Bonjour, madame.
Déo Bachi, vous êtes à Bukavu, vous êtes même le point focal d'un réseau de protection des journalistes. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu un séminaire au niveau de Bukavu qui a regroupé plusieurs professionnels de médias où, ensemble, vous avez essayé d'analyser, voir les causes, pourquoi il y a autant d'insécurité, pourquoi les journalistes et professionnels de médias sont souvent victimes, en fait, de cette insécurité. Dites-nous un peu, Déo Bachi, comment appréciez-vous la liberté de la presse chez vous, à Bukavu?
Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais d'abord tout de suite corriger. Je ne suis pas le point focal du réseau de protection des journalistes. Je suis plutôt le point focal du réseau de protection des victimes, témoins et défenseurs de violences, de graves violations des droits de l'homme qui sont en train de se commettre au sud.
Merci beaucoup, Déo.
C'est dans ce cadre que nous avons organisé effectivement l'atelier dont vous parlez.
Mm-hmm.
Par rapport maintenant à la liberté de la presse, je dois dire qu'en fait, il faut reconnaître quand même que nous avons un peu évolué. Il y a eu un régime où personne ne pouvait oser dire quelque chose, tout le monde se cachait.
Mm-hmm.
Actuellement, on sent quand même une certaine liberté qui est en train d'être reconnue aux citoyens, de s'exprimer, et donc en même temps aussi, cela emporte liberté de la presse. Mais malgré cette liberté qui est constitutionnellement garantie et que certains mécanismes juridiques protègent quand même, il faut reconnaître qu'aujourd'hui il y a beaucoup de victimes dans la famille des journalistes. Pour le simple fait d'être effectivement journaliste et pour le fait d'avoir usé de cette liberté de la presse. Et c'est dans ce cadre que le Sud-Kivu aujourd'hui compte trois journalistes lâchement assassinés à Bukavu pour avoir osé exercer de manière libre, de manière professionnelle, leur métier de journaliste. Alors, dans l'atelier que nous avons organisé à cet effet-là, l'objectif essentiel était d'essayer de mieux comprendre pour quel motif les journalistes sont régulièrement la cible de tous ces hommes, tous ces hommes de la loi, et pour voir ensemble qu'est-ce que nous pourrions faire pour mieux les protéger. Alors, Bon, nous avons eu effectivement deux jours de travaux avec des maisons de médias, avec des organisations qui font qui sont membres de notre réseau.
Oui.
Et nous avions même appelé certains services chargés de la sécurité des journalistes.
Oui, mais Théo Bassi, quelles ont été vos conclusions?
Nos conclusions étaient telles que, c'est vrai, il y a beaucoup de victimes dans la famille journalistique. D'abord pour trois causes majeures.
Mm-hmm.
La première, il a été identifié quand même qu'il y a beaucoup d'hors la loi qui ne supporte pas qui ne supporte pas la présence d'un journaliste, en fait, qui apparaît comme un témoin gênant, qui fait des violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées en leur présence.
Mm-hmm.
La deuxième cause, c'est qu'il y a certains journalistes, en fait, qui eux aussi ne respectent pas, d'un côté, les règles déontologiques de la profession journaliste,
mm-hmm.
ou qui ne respectent pas les règles minimales de leur protection personnelle.
Mm-hmm.
Il faut aussi ajouter quand même que dans la ville, dans plusieurs endroits, il y a encore beaucoup de citoyens non contrôlés,
mm-hmm.
et qui sont probablement aussi auteurs.
Et vous avez jugé que la meilleure façon pour que le journaliste se protège, pour qu'il ne soit plus la cible de ces personnes.
Oui, parmi les façons, les mécanismes que nous avons ensemble stipulés, la première, c'est le respect strict de la déontologie.
Mm-hmm.
En fait, il faut que les journalistes soient, qu'ils traitent l'information de manière professionnelle pour essayer de se mettre lui-même à l'abri,
mm-hmm.
des malentendus, des mauvais jugements, des messages qu'il passe.
Oui.
Qu'il évite des commentaires personnels qui risqueraient de montrer une certaine tendance, un certain parti pris par rapport à l'information objective.
Mais c'est très capital. Mm-hmm.
Le deuxième mécanisme, nous avons insisté avec les journalistes qu'il était important que tous les journalistes soient affiliés effectivement à l'UNPC pour qu'ils soient identifiés comme journalistes, parce qu'il y en a aussi qui se passent pour des journalistes alors qu'en réalité ils ne le sont pas ou qu'ils ne sont pas reconnus par la corporation en tant que telle.
Mmh.
Et le troisième mécanisme, c'est de savoir qu'en fait, lorsqu'on exerce une profession comme celle-là, on est en fait par nature même un peu exposé aux malentendus, et que donc des représailles sont mm-hmm. possibles. Il faut que les journalistes adoptent un comportement de prudence,
mm-hmm.
un comportement qui se sécurise lui-même.
Mm-hmm. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.
On a relevé, s'il vous plaît, l'importance, la responsabilité des maisons des médias elles-mêmes lorsque elles font quitter le journaliste à la station avec retard sans prendre les précautions de sa sécurité sur la route entre la maison des médias et la maison.
Oui, si on vous comprend bien, Déo Bachi, merci pour votre intervention. Vous pensez que la responsabilité incombe aux journalistes d'abord de pouvoir se sécuriser, mais aussi de son employeur aussi. Donc c'est à tous les niveaux, mais d'abord le journaliste doit faire un effort pour pouvoir respecter l'éthique et la déontologie de son métier. Merci beaucoup Déo Bachi pour votre intervention. Nous prenons le dernier auditeur de cette première série. Bonjour Bavon.
Bonjour Marie Chantal.
Oui, vous êtes à Kisangani, on vous écoute.
Oui, j'ai commencé à souhaiter bon anniversaire à cette émission et
merci
à toute l'équipe qui la présente.
Merci beaucoup.
Ouais, pour aujourd'hui, je dirais, il reste encore beaucoup à faire pour que la liberté de la presse soit conforme avec la démocratie ici en RDC.
Mm-hmm.
Plus tard, de la presse congolaise travaille d'une manière sélective, c'est-à-dire aujourd'hui la presse est en faveur du pouvoir en place, en défaveur de l'opposition.
Mm-hmm.
Et en plus, pour suggérer, j'ai dit, quand on est au pouvoir et que vous dirigez bien ou mal votre pouvoir, il doit accepter la critique. C'est là qui cause problème ici.
Mm-hmm.
La population, les journalistes, les dirigeants et tout le monde ont droit à la liberté de la presse.
Mm-hmm.
Je prends l'exemple de la RFI. le fait de critiquer le comportement de nos militaires à l'opération Kinga 1. Voilà comment les autorités ont agi. Fermer le signal de cette chaîne internationale. Deuxième exemple. Vous avez suivi ici à Kisangani. Dans une chaîne privée, les agents de l'ANR ont arrêté en pleine émission l'intervenant qui critiquait le gouvernement provincial ici. Et pour terminer, je dirais, en plus, quand même nous exprimons la radio Capi, nous avons peur de dire tout, car nous craignons d'être poursuivis après.
Mm-hmm. En tout cas, merci beaucoup, Bavon, pour votre intervention à partir de Kisangani.
Parole aux auditeurs.
Professeur Bernard Moussoko, plusieurs auditeurs ont donné leur point de vue, se sont exprimés sur ce sujet concernant la liberté de la presse. En gros, ils ont soulevé la peur, les journalistes ont peur de dire des choses, et même, ils ont même soulevé le respect de l'éthique et de la déontologie. Dites-nous un peu, professeur, c'est assez difficile de pouvoir travailler lorsqu'on a peur, mais qu'est-ce qu'on peut faire, professeur?
Écoutez, c'est vrai, ils ont, j'ai suivi un peu cette expression, la peur, c'est que lorsque la démocratie n'est pas vécue comme telle, ben, les différents acteurs ont peur de pouvoir y participer. Alors, vous savez, le journaliste, c'est quelqu'un qui participe de manière active à la marche de la démocratie en apportant l'information à la population, mais lorsqu'il sent qu'il ne peut pas faire exercer ce métier librement, évidemment il a peur, et c'est cela qui pousse, j'ai suivi Pedro de Lubumbashi qui disait que les journalistes ont tendance à louer à flatter un peu les certains acteurs, et je crois que sincèrement c'est un sérieux problème. Je ne sais pas, j'ai pas de remède de miracle, mais je crois que les journalistes congolais doivent d'abord savoir qu'ils ont une part importante de responsabilité dans la marche de la démocratie dans notre pays, et que la liberté de la presse n'est pas quelque chose qu'on donne, c'est vraiment quelque chose qu'on doit arracher des hautes luttes. Et il faut qu'ils acceptent un certain nombre de sacrifices. Bien entendu, nous ne voulons pas dire que il faut que les journalistes se fassent tuer, mais ils doivent savoir que ce n'est pas facile, et que les acteurs, les autres acteurs qui détiennent l'information, ne nous laissons pas librement faire le travail. Donc, les journalistes, comme l'a dit votre correspondant de Bukavu, a aussi sa part de responsabilité. Il doit vaincre sa peur en devenant réellement un journaliste qui travaille selon sa conscience et qui sait qu'il apporte une contribution au développement du pays, au progrès de la nation. Par conséquent, il doit donner une information honnête, une information plurielle. Le Congo, c'est un ensemble de nations encore, hein. Il faut pas se voiler la face. Le Congo n'est pas encore devenu une nation unique. Nous sommes plusieurs peuples qui se sont retrouvés grâce à la colonisation et les 50 années d'indépendance n'ont pas gommé toutes les différences. Par conséquent, le journaliste doit lutter, doit apporter sa contribution pour réaliser l'unité nationale et donner maintenant des éléments qui facilitent le développement du pays. Par conséquent, cela passe par la mise à la disposition du public d'une information honnête, d'une information plurielle.
Mais il y a aussi un problème. Nous sommes dans un environnement où la lutte contre l'impunité est en train de traîner le pas. Est-ce que vous pensez que cet environnement peut aussi permettre aux journalistes de fonctionner normalement?
Justement, non. Mais il faut qu'il se dise, lui, que prenant les propos, par exemple, du chef de l'État à témoin, vous savez, nous avons Le MEC a organisé un atelier qui va se clôturer cet après-midi sur le thème tolérance zéro, sécurité des journalistes, défis et perspectives. Alors, le journaliste doit se dire que la tâche n'est pas facile, mais il doit faire son travail. Les obstacles ne vont pas manquer dans beaucoup de domaines. Mais lui, il sait qu'il a choisi un métier particulier qui a beaucoup d'exigences par rapport aux d'autres, à d'autres.
Mm-hmm. En tout cas, merci beaucoup, professeur, de nous avoir donné de votre temps. Vous êtes vraiment, vous avez accordé 30 minutes à cette émission. Nous vous remercions. Mais avant que vous puissiez partir, en bref, qu'est-ce que nous pouvons retenir, professeur?
Nous devons retenir ceci, Marie-Chantal, la liberté de la presse. C'est un droit qui doit être accordé, accepté et exigé par tout le monde. Les pouvoirs, la profession des journalistes, comme le public, surtout le public, il faut que le public exige que les journalistes puissent travailler dans la liberté pour que lui reçoive une information qui lui permette de participer à la marche des affaires de son pays. Par conséquent, c'est vraiment une exigence fondamentale pour que la liberté devienne une réalité dans notre pays. Deuxièmement, il faut que le journaliste puisse chasser la peur qui a été prononcée par un certain nombre d'auditeurs. Il doit se dire, j'ai une responsabilité, je suis citoyen de mon pays, je participe à l'évolution de ce pays, il faut que je fasse mon travail sans que j'aie peur de qui que ce soit. Troisième chose, il faut que les promoteurs, les responsables des organes d'information payent correctement les journalistes pour que ceux-ci ne soient pas à la merci de ceux qui possèdent l'argent. Quatrièmement, enfin, je voudrais demander à ce que l'État puisse garantir la sécurité des journalistes. Sans cette sécurité-là, les journalistes auront toujours peur et notre pays sera classé parmi les pays où la liberté de la presse n'est pas respectée. Or, moi, je voudrais que dans quelques années, nous puissions changer de discours et dire que oui, effectivement, il y a une évolution. Et nous avons vécu cette évolution, nous vivons cette évolution dans tel ou tel domaine.
Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention à cette émission.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous êtes branché sur Radio Okapi et vous suivez l'émission Parole aux auditeurs, une émission qui permet de vous exprimer sur les antennes de Radio Okapi sur des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, nous parlons de la liberté de la presse. La question pour lancer notre émission, comment appréciez-vous la liberté de la presse en RDC? Il y a déjà Gaston en ligne ainsi que Kennedy à Kalemi. Bonjour Gaston. Gaston n'est pas joignable. Nous allons prendre Kennedy. Bonjour.
Bonjour madame.
Oui, Kennedy, on vous écoute.
Ok. Moi, je veux directement dire que la liberté de la presse en RDC est vraiment pétunaire. Et aussi, les responsabilités sont à partager. J'ai dit ça pourquoi. Vous avez entendu, dernièrement d'abord, nous avons suivi une information qui était passée sur Radio Okapi. De dire qu'il y a trois journalistes d'âme qui ont été menacés par SMS. Disant que c'était les journalistes de Radio Okapi 2. N'est-ce pas?
Il y a c'est courant, hein, des menaces par SMS.
Alors, avec de telles menaces, aussi avec de telles théories, les choses vont être impunies comme ça. Où en est-on avec le procès de Serge Mayache, aussi le procès de Didac Namujimbo? Vous voyez que c'est à l'état de faire tout afin que cette peur-là qui recouvre les journalistes ne cesse d'être là. Parce que jusque-là, je vois que lorsque les choses vont être continuées comme ça, il y aura toujours des continuités.
Et donc vous pensez qu'il faudrait lutter contre l'impunité, ça permettra aux journalistes de mieux travailler, de mieux exercer sa protection. Merci beaucoup Gaston, plutôt Kennedy, vous êtes à Calémy, vous venez d'intervenir en ce qui concerne la liberté de la presse ici en RDC. Nous avons notre deuxième invité qui est déjà en ligne, il s'agit du député national Elvis Moutiri Wabachara. Bonjour honorable.
Bonjour madame.
Vous avez été longtemps journaliste, presque 25 ans dans le métier. Vous êtes un ancien président de l'UNPC à l'époque, UNTESA. Vous êtes aussi un ancien président de l'Association des éditeurs des journaux du Zaïre. Donc il y a autant de fonctions dans les médias. Les médias n'ont plus de secret pour vous. Aujourd'hui, vous êtes député national avec l'évolution qu'il y a eu de la liberté de la presse en RDC. Quelle lecture faites-vous pour l'instant? Est-ce qu'elle est respectée ou pas du tout?
La liberté de la presse n'est pas respectée, elle est moyennement respectée.
Mm-hmm.
Et ces dernières années, cette liberté s'est complètement détériorée. Et c'est une obligation du pouvoir public de pouvoir ramener cette liberté à un niveau compatible avec les standards internationaux.
Mm-hmm.
Et le pouvoir public a l'obligation de donner libre accès aux sources d'information à tout journaliste qui veut informer son public. Mmh. Et au-delà de cela, assurer la sécurité, au-delà des biens et des personnes qui est absolument sa mission première.
Mmh.
Mais d'une façon spéciale, il doit l'assurer aux journalistes et à son matériel parce qu'il participe, il assure une mission de service public.
Mmh. Vous avez soulevé un problème de pouvoir accéder aux sources d'informations, parce que c'est vraiment une réalité, mais selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour que les journalistes puissent facilement accéder à ces sources d'informations?
Mais d'abord, ça doit être un état d'esprit partagé par tous ceux qui ont le pouvoir et qui l'exercent dans les institutions. Le journaliste doit accéder à... C'est pourquoi il est porteur d'ailleurs d'une carte de presse. À l'époque, on l'appelait un coup de fil dans les manifestations, partout où il doit requérir l'information, accéder aux sources d'information, il doit vivre d'une liberté absolue.
Mm-hmm. Ouais. Oui, et sur le plan aujourd'hui concernant la loi, est-ce que vous pensez que tout est mis en place pour permettre que les journalistes puissent exercer son métier correctement?
Ben, vous savez, la loi, les meilleures lois ne sont pas nécessairement le garde-fou ou bien ils n'assurent pas totalement l'exercice de liberté. Ce qui est très important, c'est que, comme je le disais là, les autorités nationales et que tous les citoyens comprennent que cette liberté, elle est essentielle, elle est constitutionnelle,
mmh.
mais aussi c'est le meilleur baromètre de l'exercice de la démocratie dans tout pays.
Oui. On vous garde en ligne le temps d'écouter aussi d'autres auditeurs. Il y a déjà Joe qui est d'ici de Kinshasa. Il est en ligne. Bonjour Joe.
Bonjour madame.
Joe, on vous écoute.
Oui, moi je pense que la liberté de presse doit être appréciée à trois niveaux.
Mm-hmm.
D'abord, la part de ceux qui la donnent, c'est-à-dire la population elle-même.
Mm-hmm.
De la part de ceux qui la gèrent, c'est-à-dire les dirigeants. Et des bénéficiaires eux-mêmes, c'est-à-dire les journalistes. Alors quand je regarde du côté de ceux qui la donnent, c'est-à-dire la population... La population a besoin d'avoir une information convenable. Mais ici, chez nous, au Congo, il arrive que la population ne reçoit pas toujours toutes les informations nécessaires pour pouvoir participer à la gestion de la chose publique. Or, celui qui a la tâche de faire ce travail, c'est justement le journaliste qui doit aller chercher l'information même dans les coins les plus retranchés et apporter à la population. Donc la population n'en bénéficie pas suffisamment. D'autre part, il y a le problème de l'adaptation même de la qualité de l'information que l'on amène à la population. Il arrive souvent, bon, j'ai dû faire un constat avec les types d'informations que l'on donne. Généralement, on le donne en français ou soit dans des langues à caractère très difficilement compréhensibles.
j'ai dû observer le dernier phénomène ici de ce qu'on appelait le lingala facile, faire en sorte qu'on amène l'information même à la personne de très bas niveau, au niveau de la population, pour qu'elle puisse aussi participer à la gestion de la chose publique. Voilà ce qui peut monter le taux de niveau de la démocratie. Alors, lorsque je regarde maintenant ceux qui la gèrent, c'est-à-dire les dirigeants, là aussi, vous voyez que les dirigeants préfèrent à ce que, lorsqu'il faut faire publier une information, que ce soit quelque chose qui aille dans le sens de nous caresser les poils, dans le sens qui nous fasse plaisir. Lorsque vous regardez une maison de presse comme la RTC, il y a des réalités qui peuvent se passer quelque part, un cas de critère dans une province. Vous n'entendrez jamais une information comme ça sur les antennes de la RTC. Donc, ça devient une information sélective, alors que on devrait être en mesure de donner à la population l'information totale et exacte. Alors, je viens aussi à la troisième catégorie, qui sont les journalistes, qui sont les bénéficiaires même de cette liberté. Bon, c'est vrai que depuis un certain temps, on a senti une certaine montée. Bon, évidemment, ils traînent des informations qui sont parfois sécuritairement dangereuses. Bon, on a senti une certaine avancée, mais là où nous ne comprenons pas, c'est que les journalistes ont versé dans une certaine corruption, c'est-à-dire qu'ils attendent qu'on leur paye pour qu'ils livrent une information qu'ils doivent donner. On appelle ça le coupage, sous d'autres termes, on appelle ça le kawana et tout ça. Bon, ce sont des choses qui abîment le métier, qui détruisent cette liberté de presse.
Oui, en fait, vous êtes aussi le point focal du réseau sur la réforme du secteur de la sécurité. Mais dites-nous un peu, c'est vrai qu'à un certain moment, le journaliste se sent vraiment insécurisé, mais qu'est-ce qui est fait pour lui, pour qu'il puisse mieux travailler, qu'il puisse mieux prester?
Oui, c'est pour ça que nous, en tant que membres du réseau pour la réforme du secteur de sécurité, nous pensons que la sécurité doit être un service qui est proposé à toute la population. La rapprocher le plus possible de son lieu dans lequel il vit, dans lequel il évolue. C'est pour ça que nous voulons, lorsqu'il s'agit de la population, qu'on puisse parler d'une police de proximité. De sorte qu'il y ait sa couverture plus ou moins importante, soit à 80% de l'espace où les populations peuvent se sentir ouvertes d'une certaine sécurité.
Mais souvent, donc, ça se sent, s'il vous plaît, mais souvent, ça se sent souvent des belles paroles, mais dans l'action, on ne le sent pas, c'est pas vraiment palpable.
Oui, nous sommes ici dans une situation où les services de sécurité ont été complètement laminés, ils sont dans un état déplorable, et que maintenant seulement, après le dialogue inter-congolais, on a pensé que les services de sécurité doivent être au service de la population, et non pas ce qu'ils avaient été au service des dirigeants, au service des institutions de l'État. Maintenant, les choses doivent changer. Les journalistes, par exemple, qui se sent menacé, qui se sent en danger, il a le droit de demander au niveau de la police une protection rapprochée jusqu'à ce qu'ils se sentent à mesure encore d'évoluer en toute liberté.
Une sécurité rapprochée, à ce moment-là, le policier, parce que nous avons connu ces cas-là, il y a des journalistes qui ont demandé effectivement une garde rapprochée, et ce policier qui est commis à la garde du journaliste, c'est maintenant le journaliste qui doit prendre en charge. Donc, c'est beaucoup de situations qui sont très
complexes. En fait, c'est pour ça que nous disons l'état actuel du fonctionnement de ces services de sécurité est encore lamentable. Ils fonctionnent un peu à la manière que nous avions déploré sous la Deuxième République. Nous devons nous battre maintenant. Et c'est là-dessus que la société civile est en train de s'impliquer pour que ces services deviennent réellement des services au service de la population. Et non pas, comme on l'a dit, on offre une liberté au niveau de la Constitution, mais lorsque vient l'application, on demande à ce que ça soit celui qui doit être protégé, qui paye le policier.
Oui,
ça doit être la tâche de l'État de pouvoir payer et motiver le policier qui fait son travail normalement.
En tout cas, merci beaucoup, Félix, pour votre intervention. Attendons, bien sûr, qu'on puisse lier la parole à l'acte. Là, ça sera vraiment quelque chose de très important, un coup de pouce pour la presse. Nous prenons directement Télésport Kavungo. C'est un ancien magistrat. Bonjour, monsieur Kavungo.
Oui. Bonjour, je veux rectifier d'abord concernant mon nom, je m'appelle Perfort Kavunja.
Kavunja, oui, en fait, monsieur Kavunja, il y a plusieurs auditeurs qui se sont plaints en fait de la lutte contre l'impunité. Il y a des procès de journalistes jusqu'à présent qui sont en cours, d'autres qu'on a pu clôturer, mais dans des conditions assez déplorables. Mais dites-nous pourquoi c'est toujours décrié au sein de la justice.
Bon, je crois que peut-être la population ne connaît pas les rouages judiciaires. Il y a une procédure qui est prévue au niveau du fonctionnement de la justice. Je crois que lorsque il y a un procès qui se passe devant une juridiction, on respecte les normes, on attend le plaignant, la partie civile, on attend l'accusé, le prévenu, et ensuite on vérifie si les éléments de fait et de droit sont réunis. Et si l'infraction est établie au regard des éléments constitués de cette infraction, le tribunal soit peut condamner le prévenu ou soit peut l'acquitter. Bon, peut-être si la population ne comprend pas ce langage, peut-être chaque structure a son langage. Je crois que peut-être on pourrait plus améliorer la communication, de telle manière que tout le monde puisse être informé comment est-ce qu'on a jugé tel citoyen, et si les normes du procès ont été respectées, notamment les normes du procès équitable, si chaque fois bénéficie d'une justice est juste, la justice qu'il mérite, je crois qu'on pourrait faire un effort sur ce plan-là.
Parce qu'on a l'impression à un moment que la justice, tous les dossiers en fait qui concernent les journalistes sont politisés au niveau de la justice.
Oui, je crois que c'est l'impression qui est donnée chaque fois qu'il y a une journaliste qui est poursuivie. On a tendance à dire que c'est politisé. Bon, mais je crois que l'essentiel est que toute la population puisse savoir comment ça se passe, comment que la population puisse accéder à la justice, que le procès soit public et que tout le monde puisse voir non seulement que la justice a été rendue, mais que tout le monde puisse effectivement voir comment la justice a été rendue. Je crois que sur ce plan-là, on devrait faire beaucoup d'efforts au niveau d'amélioration du fonctionnement de la justice. Évidemment, on comprend que les pays d'où ils viennent, ça fait depuis le régime au Mobutu, maintenant le pays est en train de se démocratiser. Ça doit prendre beaucoup de temps pour qu'on puisse comprendre le mécanisme de tel changement. Au niveau du Congo, ici, on n'a pas encore les porte-parole des tribunaux, ça n'existe pas encore, mais ailleurs, dans d'autres pays, il y a des porte-parole qui expliquent comment le procès s'est déroulé, de telle manière que tout le monde puisse comprendre comment on est arrivé soit à condamner, soit à acquitter, soit à résoudre des choses à atténuer. Sur ce plan-là, je crois qu'on doit faire beaucoup d'efforts.
Oui, et une dernière question avant de pouvoir vous libérer. Souvent, les journalistes ne jugent pas de la présomption d'innocence. Pourquoi?
Oui, les journalistes ne jugent pas souvent de la présomption d'innocence.
C'est rare. Des fois, il suffit qu'il ait commis un acte directement. On le met en prison, on le fout en prison, et pourtant il doit jouir de la présomption d'innocence.
Oui, moi la présomption d'innocence, c'est une règle du droit congolais, il est prévu dans la constitution du Congo, je crois que c'est l'article 19 de la constitution. Donc, c'est une règle qui est prévue dans la constitution congolaise, et c'est une règle qui se trouve dans les instruments internationaux que le Congo a ratifiés, des pactes internationaux de droits civils et politiques, et puis aussi la charte africaine des droits de l'homme et des peuples que le Congo a ratifié. Donc cette présomption d'innocence, c'est une règle que chaque justiciable qui est poursuivi en justice doit bénéficier de cette règle-là, cette présomption d'innocence. On ne peut pas la contourner. Bon, je pense que le fait de mettre un journaliste en prison en attendant qu'il y ait un procès définitif, cela ne signifie pas qu'on a mis en cause la présomption d'innocence. Puisqu'on doit vérifier, par exemple, si la fuite du journaliste est à craindre, par exemple, il y a des gens qui veulent commettre une infraction, et ils s'enfuient. Alors que l'ordre public a été troublé, c'est pour cette raison qu'on doit l'arrêter pour éviter qu'il puisse s'enfuir. Mais le principe est que la présomption d'innocence est une règle sacrée. Elle est prévue dans la constitution de la République du Congo. Elle est prévue aussi dans tous les documents internationaux que le Congo a ratifiés.
En tout cas, merci beaucoup, monsieur Télésport, d'être intervenu dans cette émission par les auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de la liberté de la presse.
Parole aux auditeurs.
Nous avons toujours notre second invité, il s'agit du député national Elvis Moutiri Ouabachara. Monsieur Moutiri, vous avez suivi nos auditeurs, ils ont soulevé la corruption au niveau de la presse, l'impunité qu'on a constatée, mais aussi souvent on parle de prétexte plutôt de la sécurité nationale, ce qui est souvent difficile pour les journalistes de pouvoir accéder à l'information. Votre réaction?
Bon, d'abord, je voulais réagir par rapport à votre dernier intervenant.
Mm-hmm.
Vous savez que les cours et les tribunaux, jusqu'à présent, dans notre pays et partout et ailleurs dans le monde, ont plutôt fait de la répression qui n'a pas servi ni à la liberté de la presse,
mm-hmm.
ni à la justice d'ailleurs.
Mm-hmm.
Le journaliste, si on est dans une culture démocratique, doit absolument être jugé par un tribunal des pairs. C'est pourquoi il y a des commissions d'arbitrage. Et vous ne pouvez pas imaginer, je crois que vous le savez, parce que vous êtes journaliste, que la plus grande stigmate, la plus grande peine que puisse subir un journaliste,
mm-hmm.
c'est être désavoué par ses pairs, mm-hmm. par ses confrères.
Mm-hmm.
Ça, c'est la plus grande peine qu'un journaliste professionnel puisse subir.
Mm-hmm.
Tandis que, moi, je suis absolument scandalisé parce que ce que votre intervenant vient de dire, qu'il faut mettre quelqu'un en prison, de peur qu'il ne puisse prendre fuite.
Mm-hmm.
Vous savez très bien qu'un journaliste travaille toujours pour une maison de presse
mm-hmm.
qui jouit elle-même d'un statut absolument particulier.
Mmh.
Et c'est vrai, les journalistes doivent s'abstenir de diffuser non seulement des informations qui sont de nature à menacer la sécurité nationale, mais seulement chez nous, on a tendance à accoler à tout ce qui est sécurité nationale, on a tendance à faire l'amalgame, écrire un article sur le comportement d'un ministre. Des fois, ça a été jugé comme une menace à la sécurité nationale, et comme si les hommes politiques étaient exonérés de toute faute et que le journaliste n'avait pas le droit de pouvoir dénoncer l'immoralité qui se manifeste dans le chef d'un l'une ou l'autre personne jouissant de pouvoir public.
Donc on a l'impression en fait que la presse est bonne quand elle a un sens, mais elle devient mauvaise quand elle critique ou dénonce l'état de certaines personnalités ou bien de certaines institutions.
C'est pourquoi les journalistes doivent s'abstenir de travailler pour des groupes d'intérêt, des groupes de pression, contre-paiement en nature ou en espèce d'ailleurs. Hein.
Mais l'un des combats
en fait... Ça l'affaiblit face aux autres, parce que l'homme politique est dans son rôle hein, d'essayer de manipuler un journaliste.
Mm-hmm.
Et c'est pourquoi la qualité professionnelle doit être absolument de rigueur dans le chef d'un journaliste.
Oui, l'un des combats des organisations de défense des droits de journalistes, c'est de pouvoir dépénaliser le délit de presse. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, vous, en tant qu'ancien journaliste, qu'est-ce qui est en train d'être fait?
Bon, en tant que journaliste, en tant qu'ancien journaliste, vous savez comment les décisions de l'Assemblée nationale se prennent, c'est par groupe politique,
mm-hmm.
et ce n'est pas toujours aisé de faire passer le message de la liberté de la presse ou de la liberté, alors qui est liée d'ailleurs de celui qui exerce cette liberté de presse. La liberté de presse, comme le disait, je crois que c'est Joe, il y a trois acteurs, c'est la population, le pouvoir et les journalistes. Les journalistes n'est pas bénéficiaire de la liberté de la presse. C'est un acteur important et le bénéficiaire, c'est le pays.
Mm-hmm.
Alors, pour répondre à votre question directement, ici nous avons déploré, en commençant quand vous m'avez posé la question, à déplorer la culture démocratique qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir une liberté de presse dans notre pays qui obéit aux standards internationaux. Donc, les hommes politiques, qu'ils soient à l'Assemblée nationale, dans toutes les institutions, ils ont un comportement qui reflète cette carence des libertés de la presse dans notre pays. Donc, c'est absolument le constat qu'il faut faire.
Mmh. Donc, c'est vraiment un combat. Les journalistes, je pense, on ne va pas baisser les bras. Nous allons continuer notre combat de pouvoir dépénaliser le délit de presse. Nous vous gardons toujours en ligne, Monsieur Moutiri. Le temps de prendre Sylvain, qui est à Bougna. Aussi, Madame Solange, de la société civile à Bukavu.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Madame Solange.
Bonjour, madame la journaliste.
Oui, vous êtes de la société civile à Bukavu. On vous écoute. Comment appréciez-vous, en fait, la liberté de la presse en RDC?
Oui, je suis de la société civile de Bukavu. Je suis rapporteur adjoint de la société civile. La liberté de la presse, aussi qui vous est appréciée plus ou moins à 5,2%.
Mmh.
Et non, 5,2 sur 10.
Mmh.
Et je vais dire pourquoi je vais argumenter. Il y a certaines avancées, mais nous avons remarqué que la plus grande partie des journalistes qui ont été assassinés au Congo sont de chez Kivu.
Mm-hmm.
Mais avec le contexte, nous comprenons que nous sommes une province à conflit, pour ne pas dire post-conflit, parce que toujours il y a des conflits.
Il y a toujours des conflits.
Les journalistes eux-mêmes développent des mécanismes pour se sécuriser et pour accéder à certaines informations, malgré qu'ils sont tués, malgré qu'ils sont menacés, parce que vous avez appris la mort de Serge, de Didas, de Coco.
Mm-hmm.
Vous avez appris les menaces qu'il y avait sur Delphine,
mm-hmm.
qu'il y avait sur Jolie Kamuntu, qu'il y avait sur Kabi Azuba. Tous ensemble sont là pour promouvoir, pour consolider la paix. Et ce sont des outils, ce sont des personnes qui accompagnent le média, qui est un outil très important pour un pays démocratique qui va vers la démocratie sociale, la démocratie totale. Et c'est là, nous croyons que, au sud-sud, il n'y a plus des avancées parce qu'il y a des réunions qui se tiennent. Il y a maintenant la société civile qui s'implique pour aussi comprendre et analyser ensemble et développer des mécanismes pour se sécuriser mutuellement. Parce que quand un acteur de la société civile est attaqué, menacé, la presse prend le courage, prend le défaut de dénoncer cela malgré tout ce qu'il y a. Mais nous demandons que cela soit fait de plus en plus au niveau du gouvernement pour que le gouvernement sécurise, donne cette liberté à la presse pour accéder à l'information correcte et la dire en toute vérité.
Oui, en tout cas, merci beaucoup, madame Solange de la société civile du sud de Kivu. Nous prenons Sylvain en une minute. Bonjour Sylvain, vous êtes à Bougna.
Oui, bonjour, Marie Chantal.
Oui, en une minute, comment appréciez-vous en fait la liberté de la presse en RDC?
Oui, je voudrais d'abord regretter la mort de beaucoup de journalistes qui contribuent pour la participation de notre pays, la RDC.
Mm-hmm.
Je pense que, individuellement, j'ai fait un bilan négatif à liberté du journalisme au Congo, puisque aujourd'hui, la gestion de la chose publique dans notre société veut faire payer le prix par les journalistes.
Mm-hmm.
Je crois que je ne voudrais pas le nom. Plutôt, vos auditeurs qui viennent intervenir ont presque tout dit, mais moi j'aimerais retenir une seule chose. Les journalistes n'ont aucune responsabilité sur sa mort.
Mm-hmm.
Je pense, à mon avis et à moi-même l'avis, que la sécurité de la chose et aussi de la personne incombe à l'État congolais par l'entremise des éléments de la force de sécurité, c'est-à-dire les FARDC
oui. Merci beaucoup Sylvain, nous sommes arrivés à la fin, nous avons compris pour vous penser que la sécurité doit revenir à l'État et que les journalistes n'a rien à faire là-dessus, que c'est l'État qui doit faire un effort pour sécuriser le journalisme. Merci beaucoup Sylvain. À partir de Bougna, il y a Massoudi Bin Seudi qui nous a écrit de l'ICASI, l'état de la liberté de la presse et ce que les professionnels des médias veulent en faire. Si au nom de la pauvreté ou de la peur, on doit écrire ou dire n'importe quoi, Cela ne vaut pas la peine. La plupart de nos journalistes ont choisi de servir des individus et ne donnent presque jamais les faits réels consciemment. Peut-être lorsqu'il s'agit de parler d'un incendie ou d'un accident de circulation. Là, c'est une, la solution, il n'y en a pas 36, le courage de dire la vérité. Autrement, ce ne sont que des collabos de ceux qui utilisent mal le pouvoir. Voilà en fait ce que nous a écrit Massoudi Bin Massoudi. Nous revenons à vous, monsieur Moukiri Wabachara, pour conclure cette émission.
Pour conclure, il faut savoir que, outre le fait que le pouvoir public a l'obligation de donner accès aux sources d'information, de protéger les journalistes, d'assurer sa sécurité, d'assurer son matériel, parce qu'il participe à la formation du citoyen, à la cohésion nationale. Le journaliste aussi a l'obligation d'avoir une rigueur professionnelle dans son comportement, ne pas menacer la sécurité nationale, effectivement, ne pas menacer la dignité des personnes en publiant des informations diffamatoires, à ne pas exposer ses sources d'informations. Il faut protéger absolument les sources d'informations, parce que sinon, ils vont absolument subir des représailles de toute nature.
En tout cas, merci beaucoup, honorable Moukiri Wabachara. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci de nous avoir donné de votre temps. Vous êtes député national. Nous disons aussi merci au professeur Bernard Moussoko à Bombay d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et nous disons aussi merci pour la participation à tous nos auditeurs et à tous nos fidèles auditeurs qui n'ont pas pu participer à cette émission. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Nous parlerons de l'accès à l'emploi et aux conditions de recrutement, de questions, quelle est la situation chez vous et que faut-il faire pour l'améliorer. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Radio Okapi.